Interview.
1 du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Anne-Sophie Dodon. Bonjour.
Bonjour.
Anne-Sophie Dodon, vous êtes là pour représenter Village Vivant. Et puis, à vos côtés, Joël Peter. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici pour représenter la Corderie. Et nous avons également au téléphone Monsieur Bruno Locatelli pour l'association Solia. Bonjour.
Bonjour.
Tous trois, vous êtes ici pour nous annoncer une bonne nouvelle, on peut dire, c'est-à-dire l'acquisition par Village Vivant au bénéfice de l'association de la Corderie du local qui était l'ancienne pharmacie rue Buffardel. Joël Peter, quelle sera cette destination de ce local ?
Alors, la Corderie du Pays d'Iwa va bientôt fêter ses 10 ans. Et depuis 10 ans, nous étions dans un petit local d'une trentaine de mètres carrés. Nous avons commencé à 15 et aujourd'hui nous sommes pas loin de 1000 personnes. Donc effectivement, on avait vraiment besoin d'un peu plus de place. Et cette opération qui s'est menée conjointement a été vraiment pour nous un exemple de synergie qui était très fort. Enfin, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens d'investir sur la rénovation d'un grand local. Que la plupart des locaux qu'on avait trouvés sur 10 nécessitaient pas mal d'investissements. Et donc, Village Vivant a accepté d'acheter le local et de nous le louer derrière en faisant des travaux. Et entre-temps, comme il y avait aussi une partie qui était attenante, mais en très mauvais état, Solia, un autre intervenant, s'est occupé de cette partie pour faire des logements sociaux. Donc ça a été vraiment une synergie de trois structures qui a permis cela.
Anne-Sophie Dodon, avant de continuer, on va de nouveau aussi présenter ce qu'est Village Vivant et quelle est son action sur le territoire, notamment.
Village Vivant, c'est une foncière solidaire et rurale. On est basé à Cray et on intervient au final sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, voire un peu plus. Et pour nous, faire une opération à 10 avec une structure associative qui a de nombreux bénéficiaires, c'était une action forte. Quand je dis foncière solidaire, en fait, c'est qu'on achète, on rénove, puis on loue des biens immobiliers à destination d'activités qui remettent du lien social, participent au développement économique, humain, des communes, des territoires ruraux. Et tout ça, on le fait en grande partie avec l'argent des citoyens qui investissent dans la coopérative Village Vivant, argent qui est directement remis au service de l'achat de ces bâtiments.
D'ailleurs, vous pourriez expliquer aussi comment s'engrange cet argent pour justement encourager l'activité locale.
On permet aux citoyens de placer une sorte d'épargne solidaire. Et plutôt que leur argent dorme sur un livret d'épargne, et bien de venir le placer dans la coopérative Village Vivant avec un petit rendement sur une durée de 7 ans et que cet argent soit réinvesti sur l'achat et la rénovation des bâtiments. Et aux côtés des citoyens, il y a aussi des institutions. Les institutions que sont la Banque des Territoires, des fondations et d'autres acteurs du domaine foncier. Et puis, le troisième acteur qu'on peut également citer, ce sont les collectivités qui, progressivement, prennent part à la coopérative Village Vivant et investissent de manière solidaire.
Je me tourne vers Bruno Locatelli. Vous êtes représentant de Solia. On peut peut-être définir cette association et son action
Alors, tout à fait. Donc, Solia
Solia, c'est une fédération nationale qui est structurée en plusieurs, on va dire, associations départementales. Donc, je parle en représentation de Solia Drôme qui intervient sur tout le département et qui est une association qui réalise plusieurs métiers à la fois. Donc, sans rentrer forcément trop dans le détail, mais il y a une vocation, je dirais, d'aider les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs à rénover leur parc, notamment par le biais des aides de l'ANA. Voilà, on a aussi une action sociale par rapport à tout ce qui est personnes handicapées, par rapport à l'adaptation des logements. On a aussi un volet de gestion locative et sociale, donc sur notre parc qui est de logements qui nous est propre, avec également pas seulement une activité locative, mais une activité d'accompagnement social qu'on exerce notamment dans le cadre de nos structures, on va dire, pension de famille, résidence sociale, un peu les anciens foyers de jeunes travailleurs et structures assimilées. Et puis on a une dernière activité donc, qui a été mobilisée dans le cadre du projet qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'activité de maîtrise d'ouvrage d'insertion. C'est-à-dire qu'on rachète des bâtiments qui n'étaient pas forcément du logement et qu'on réhabilite avec des fonds assez importants pour créer du logement social, voire des très social justement, donc avec des logements qui sont labellisés, donc soit bâtiments basse consommation et si le site ne nous permet pas à haute performance énergétique, pour justement offrir à nos futurs locataires des meilleures économies de charges possibles.
Voilà. Merci. Et je me tourne vers Joël Peter pour aussi parler de l'accorderie qui fonctionne sur le principe de l'échange, du troc en quelque sorte.
Oui, alors le fondement de l'accorderie, c'est de créer du lien social et de lutter contre les précarités. Et pour ça, on a un outil essentiel, c'est un échange de services. Et un échange de services qui n'a aucun rapport avec l'argent, avec les euros, puisque notre monnaie, c'est le temps. On part du principe que la seule monnaie juste, c'est une heure du temps de chacun. Donc dans nos échanges, une heure égale une heure. Quand on va proposer de faire un peu de bricolage ou sortir le chien ou aller promener avec quelqu'un, et ben une heure de ce temps-là est égale complètement à une heure du temps de la personne. Voilà, donc.
Ce rapprochement auprès de Village Vivant, comment s'est-il opéré? Est-ce que c'est par appel à candidature de la part de Village Vivant? Ou alors c'est un désir qui a été, puisque vous regroupez à peu près 1 000 de personnes, qui a été solidairement mis en avant pour demander ce service à Village Vivant?
C'était un petit concours de circonstances. Moi, je pensais que Village Vivant travaillait essentiellement sur les petits commerces, la rénovation et la remise en état des petits commerces dans les centres-bourgs. Et puis, il se trouve qu'il y a 2 ans, j'avais entendu parler d'une opération qu'ils avaient faite à Beaufre, en Ardèche, où ils ont acheté un bâtiment, ils l'ont rénové et l'ont donné en location à un groupe de gens qui ont repris... donc, c'était l'ancien restaurant-hôtel du village. Et comme nous, on était en pleine recherche de local et qu'on avait cette problématique de travaux à faire et assez important, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas demander à Village Vivant s'ils ne seraient pas partants pour faire une opération comme ça sur 10. Voilà, ça a commencé tout doucement et ça aboutit au bout de 2 ans à ce qu'on est rentré dans les locaux il y a 3 semaines et on est très content donc de passer de 30 mètres carrés à 170 mètres carrés dans cette ancienne pharmacie.
Bruno Locatelli, l'action de Solia, comment est-elle effective sur cette action d'achat de la pharmacie?
Alors, donc nous, on a été contactés à la base donc, par Village Vivant, qui souhaitait un petit peu mutualiser nos compétences au leur, notamment sur le volet logement. Et c'est vrai que ce partenariat nous a tout de suite séduit. C'est vraiment une méthode d'action conjointe qui est très intéressante dans les centres-bourgs parce qu'elle permet de conserver dans les rez-de-chaussée des locaux commerciaux ou activités d'artisanat et puis sur les étages supérieurs de créer du logement social et de faire des rénovations thermiques performantes qui s'insèrent bien dans le bâti urbain. Donc nous les temps de on va dire de de mise en œuvre de travaux sont plus longues effectivement que Village Vivant. On est sur des temporalités différentes parce que c'est vrai que nos opérations, on est obligé de solliciter l'accord de l'État pour obtenir l'agrément logement social ou très social. Et puis une fois qu'on a cet accord de l'État, on mobilise des subventions des différentes collectivités. Et puis une fois qu'on a l'accord des différentes collectivités, après effectivement on sollicite un emprunt qui nous permet de financer les travaux. Donc dans ce temps parallèle de demande de financement, ben, on crée notre programme de travaux et puis nos exigences, on consulte nos entreprises. Et puis après, une fois que tous les feux sont ouverts, ben, on lance les travaux. Donc là on en est à un stade où on a sollicité les subventions, donc on a eu quasi tous les retours, et puis on va lancer la consultation d'ici à peu près 15 jours là. Donc on envisage de démarrer le chantier fin septembre. C'est des chantiers qui devraient durer à peu près 8 à 9 mois, voire un petit peu plus, parce que depuis les temps qui courent, on ne sait jamais trop où on va avec l'augmentation des matériaux, les entreprises, ça, c'est pas, le contexte n'est pas forcément évident, mais c'est vrai qu'on envisage l'entrée de nos locataires légèrement avant les vacances d'été 2023 ou alors septembre 2023, suivant le contexte général. Voilà.
Anne-Sophie ?
Et je voulais aussi rappeler que pendant ce processus de 2 ans, plus de 2 ans où on a travaillé avec la corderie, se sont succédées plusieurs idées de projets, idées de partage d'espace. Et c'est à un moment où Village Vivant se rendait compte qu'on n'avait pas vraiment d'usage déterminé, suffisamment solide pour l'espace que finalement Solia a racheté. Et c'est par le biais de la communauté de communes du Pays d'Iwa qu'on a eu cette petite... appel de « Mais avez-vous pensé à Solia ?» Mais oui, c'est vrai. Et c'est à ce moment-là que Solia est rentrée dans la danse.
Sans indiscrétion, le coût de cet investissement est de combien ? C'est possible de connaître un peu ? Et la deuxième question derrière, c'est est-ce que vous avez constaté justement l'augmentation du coût des valeurs des immeubles dans vos démarches ?
Il n'y a pas de souci par rapport aux chiffres. Donc le prix global de l'opération nous revient à nous à peu près à 240 000 euros. Voilà, donc c'est une opération assez chère pour deux petits logements, effectivement, parce que donc il y a un foncier qui n'a pas été payé très cher, parce qu'effectivement on a pu répartir au ratio des surfaces avec Village Vivant, qui a acquis la plus grosse partie. Et puis ça inclut dedans tous les frais d'honoraires, les frais d'assurance, les coûts de maîtrise des d'œuvre, d'ingénierie et tout ça. Voilà.
Côté ouais, Village Vivant, on est sur le même rapport. On est sur une opération qui nous a coûté 230 000 euros. Avec un peu plus de la moitié sur l'achat du foncier, un montant que je n'ai pas précisément sur les travaux et le coût de notre ingénierie pour intervenir.
Il y a cette idée donc de remise en état d'un bâtiment. Comment s'opère justement cette rénovation de lieu ? Est-ce que avec la corderie, il y a moyen, par exemple, de réfléchir à ce type de travail, de service, d'échange de services ?
Alors, depuis notre première rencontre avec Village Vivant, on a vraiment travaillé dans une forme de partenariat pour trouver une manière juste d'avancer ensemble. Donc, on n'avait pas du tout une relation propriétaire-locataire classique. On a travaillé plusieurs journées ensemble sur le bail, parce qu'il fallait trouver un juste équilibre aussi entre les moyens financiers de la corderie et le retour aussi sur tout l'investissement qu'allait faire Village Vivant. Et je dois dire personnellement que pour moi, j'ai trouvé ça très agréable de travailler de cette manière, aussi bien avec Village Vivant qu'avec Solia, parce que quand tout le monde est mobilisé, je veux dire, dans le bien commun, enfin l'intelligence collective, ben, les problèmes se résolvent tout seuls.
Je reviens vers vous, Joël. Qu'est-ce qu'il y aura de possibilités, justement, avec ce nouveau local ?
Alors, nous avons dans la corderie énormément de propositions collectives, hein, d'animation collective, que ce soit un atelier couture, des ateliers d'écriture, toutes sortes de propositions. Et on avait beaucoup de difficultés, vous imaginez, à réaliser tout ça dans notre petit local de 30 mètres carrés. Donc il a fallu qu'on loue déjà un autre espace pour l'atelier couture, il a fallu qu'on trouve des salles à chaque fois qu'on proposait des activités. Là, ça va quand même nous permettre de nous recentrer essentiellement sur ce local, puisqu'on aura à la fois nos bureaux, notre lieu d'accueil, et aussi pas mal de nos activités vont être proposées dans ce même lieu.
Comme les loyers que Village Vivant établit au profit de la corderie sont basés sur le calcul de ce que nous coûte l'opération, c'est-à-dire du coût d'achat et du coût des travaux, il était discuté dès le début avec la corderie que plus la corderie pouvait peut-être mener des petits travaux, faire avec des chantiers participatifs, avec les compétences locales, et ben ce serait d'autant plus des montants qui sortiraient de l'enveloppe dépensée par Village Vivant et donc qui seraient une sorte de baisse des loyers opérés pour la corderie.
Prochainement, il me semble qu'il y aurait une inauguration de ce local. Est-ce que c'est un peu prématuré d'en parler ?
Non, non, pas du tout, puisque la date est fixée. Donc ce sera le jeudi 23 juin, à partir de 17h30. Donc notre local sera ouvert pour fêter cette nouvelle installation.
Il y aura votre présence, Anne-Sophie, pour cet événement, ainsi que Bruno, vous serez là ou il y aura une représentation de Soliap ce jour-là ?
Alors, moi, je ne serai pas disponible à titre personnel. Alors, j'ai fait remonter à mon directeur, mon président. Je ne sais pas si. Je ne crois pas avoir vu le retour. Mais je pense que oui, il y aura bien quelqu'un pour venir représenter. De toute façon, nous, c'est vrai que Solia, la temporalité étant un peu différente, on fera aussi une inauguration de nos locaux. Donc, c'est vrai qu'il y aura. Sur ce type de projet, ce qui est bien, c'est qu'en général, on a deux voire trois inaugurations. Donc, c'est toujours agréable de pouvoir mobiliser les gens, les collectivités, peut-être les commerçants aux alentours sur ce type de projet qui sont un petit peu innovants, qui sont intéressants pour le bien vivre ensemble, pour le lien social.
Anne-Sophie Doudon.
Et nous, bien sûr, plusieurs personnes seront disponibles. Je dis bien sûr parce qu'on adore fêter, faire la fête et rencontrer les nombreux bénéficiaires des locaux dans lesquels les activités se réinstallent.
Anne-Sophie Doudon, Village Vivant est installé à Cré depuis quelques années, hein, je crois 3-4 ans.
5 ans.
5 ans maintenant. C'est une structure qui est allée en s'amplifiant aussi et qui a combien de personnes qui s'activent dans cette association ?
Village Vivant est né sous forme associative en 2017, avec trois fondateurs qui ont initié cette démarche. Aujourd'hui, on est 11 personnes, dont 10 sont basées à Cré et une est basée à Clermont-Ferrand. Et nous nous sommes transformés en SIC, en Société Coopérative d'Intérêt Collectif, dès 2018, pour faire face à l'ampleur de la volonté et du champ d'intervention que l'on visait.
Il y a d'autres perspectives aussi pour Village Vivant sur le développement de locaux ruraux ou d'activités dans le domaine rural.
Tout à fait. Alors pour parler de ce qui se passe actuellement dans le Diois, on vient de faire l'acquisition d'un local à Luc en Diois qui vise à installer une épicerie qui sera une épicerie en coopérative, en SCOP, très proche de la Carline, très proche du réseau Grappe. Celle-ci verra le jour, on espère, en début d'année prochaine. Et puis, il y a notre participation alors financière sur un projet de tiers-lieu dont le nom est aujourd'hui l'Avant-Poste et qui sera situé en plein cœur de Die.
Ça, c'est pour dans combien de temps il y a une idée ?
Alors, la durée des opérations immobilières et notamment des travaux, et Bruno le confirmera, sont très longues. Aujourd'hui, on parle de projets qui vont émerger courant 2023 et le second dont je parlais, je pense, courant 2024.
Justement, cette activité de chercher des locaux, d'essayer de monter des projets, cela prend un certain nombre d'années, combien ?
On peut aller sur le plus court que j'ai pu expérimenter, c'était de l'ordre de 6 mois, entre le moment où on a le premier contact et puis le moment où l'activité s'installe. Mais pour tout vous dire, ce sont des opérations sur lesquelles il y a peu de travaux, avec peu de négociations avec le propriétaire-vendeur. Ce sont en effet des opérations qui peuvent aller jusqu'à 2-3 ans, quand il y a les délais administratifs, d'études et de travaux qui durent.
Je pose la même question pour Bruno, pour Solia. Cette activité vous prend un certain temps, j'imagine. Il y a en quelque sorte une moyenne.
Effectivement, c'est alors dans le secteur du Divois, c'est un secteur qu'on cherche à développer. Donc ça fait bientôt 2 ans qu'on tourne pas mal. Et c'est vrai que c'est assez difficile de trouver du foncier qui rentre dans nos critères. C'est-à-dire que nous, dans notre production, on va dire, sur du logement diffus, on essaye de rester dans des petites unités, 2 à 3 logements, voire peut-être 4 logements. Donc ça correspond à un certain type de bâti particulier. Et c'est vrai que dans notre modèle économique, on ne peut pas acheter trop cher ce foncier parce qu'effectivement, nos loyers sont destinés à du logement social, donc des loyers qui sont encadrés, donc nos recettes sont définies à l'avance. Donc on doit contenir nos dépenses. Et c'est vrai que même si on a des fonds gratuits et qu'on a des emprunts à long terme, on doit quand même maîtriser ces dépenses d'exploitation. Et c'est vrai que trouver du foncier adapté à nos besoins, à nos critères, à nos contraintes, c'est pas si simple que ça. Et d'ailleurs, je remercie Village Vivant qui a aussi des fois ce rôle d'apporteur foncier pour nous, parce qu'ils sont ils sont mis sur des tènements immobiliers qu'on n'aurait pas forcément ciblé nous, parce que c'est vrai qu'on rayonne sur tout le département. On peut pas non plus aller spécifiquement sur tel ou tel endroit. Donc la recherche foncière, des fois, c'est un petit peu par opportunité, par contact, par bouche à oreille. C'est vrai que le délai pour trouver un bien, nous, je dirais entre 6 mois et 1 an, hein, sur un territoire, tout partenaire apporteur confondu, on va dire.
Vous concertez surtout sur les communes, j'imagine. Vos actions sont liées aux communes. Est-ce que parfois vous allez même dans le rural profond, dans un hameau ou même une maison un peu éloignée?
Alors c'est vrai que nous, nos produits logements font partie d'un parcours, ce qu'on peut appeler un parcours logement pour nos locataires. Donc c'est vrai que à ce titre-là, on essaie justement de rester quand même dans des centres-bourgs où on a différents services qui sont à proximité, tous les services de proximité classiques, hein, école, pharmacie, enfin tout ce qui est secteur médical, secteur de, on va dire, de l'alimentaire. Effectivement, il faut qu'il y ait une dimension économique, parce que ces critères-là sont jugés comme importants par nos partenaires financeurs, nos collectivités, qui souhaitent effectivement qu'on ait des implantations, on va dire, un peu plus urbaines, même si dans notre programmation, il y a quand même toujours 20 à 30% qui sont sur des secteurs très ruraux, parce que proches des grandes agglomérations, et finalement répondent quand même à un besoin du territoire, quoi.
Voilà, et donc les exigences de Village Vivant sont identiques, je suppose, pour accéder à ces locaux. Il y a cette priorité que ça se situe en général dans une commune ou dans un milieu urbain.
Pour Village Vivant, c'est un peu différent. C'est important que ça se situe en milieu rural et sur des bourgs, des villages, voire des petites communes. On est aussi en capacité d'intervenir sur des biens, disons, un peu plus isolés. S'il y a toujours ce lien avec le territoire qui se réalise, si le projet est emblématique dans le sens qu'il apporte vraiment quelque chose de nouveau, à ce titre-là, dans le Royan-Vercors, on a investi dans le rachat d'une auberge, hostel de jeunesse, qui est repris par une équipe de jeunes sous forme de SCOP, en coopérative, et qui apporte vraiment quelque chose de nouveau sur ce territoire. Le bien est complètement isolé, mais c'est tout l'enjeu et l'ambition de tisser du lien avec la vallée et les plateaux.
Depuis votre existence, depuis 2017, donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous signifier le bilan de ces acquisitions qui ont été opérées ?
Eh bien, aujourd'hui, on a acquis une douzaine de biens. Je dis une douzaine parce qu'il y en a toujours sous compromis ou il y en a un qui a été acheté ce matin. Donc, je ne sais pas s'il fait partie des 12 ou du 13e. Ça représente un peu plus de 4 millions de fonds engagés sur les projets. Et ce qui est significatif pour nous, c'est que ça représente, dans les activités qui sont installées, une quarantaine d'emplois qui sont créés indirectement grâce à l'acquisition de ces locaux.
Alors, il y a cette acquisition et puis il y a tout le travail aussi de rénovation, transformation parfois peut-être. Ça, c'est aussi votre activité dans Village Vivant. Il y a des personnes qui sont chargées de cette rénovation, tout comme Solia, j'imagine.
Côté Village Vivant, on a une personne, en effet, qui est en charge de gérer ce patrimoine et puis de travailler à sa transformation et à ce que le bien soit le plus adapté possible aux usages, aux usagers futurs. Donc il y a ce travail de concertation qui est fait, comme le mentionnait Joël tout à l'heure sur la corderie, quels sont les besoins du projet et aussi côté Village Vivant, de s'assurer que le bien va bien répondre à des normes, qu'elles soient des normes d'accessibilité, des normes de sécurité. Et pour ça, c'est un travail qui se fait petit à petit sur du long terme.
Bruno ?
Alors, côté Solia, effectivement, on dispose en interne d'une maîtrise d'œuvre qui nous permet justement, dès le départ des biens qu'on aborde en prospection foncière, de pouvoir rapidement esquisser des études d'opportunité, dessiner des plans sommaires, faire nos études financières, vérifier effectivement au regard de la performance énergétique, l'intégration dans le tissu urbain, on va dire la définition des travaux qu'il y a à faire, on soit dans le juste et que ça permette d'aboutir à quelque chose qui réponde à toutes les normes environnementales qu'on connaît maintenant et puis que ça réponde aussi aux besoins des territoires. Donc effectivement notre activité, je dirais, de maîtrise d'œuvre, aussi bien en phase d'études qu'en phase de suivi des travaux et livraison des logements, elle est hyper importante.
Et par rapport à ces travaux, vous sollicitez des entreprises, j'imagine. Est-ce que vous mettez un point d'honneur, par exemple, à ce qu'elles soient la plus locale possible ?
Côté Village Vivant, ce sont toujours des entreprises locales. C'est à la fois un choix, politique, mais aussi un choix pratique. C'est hyper agréable pour nous et pour les futurs usagers qui vont être régulièrement invités à faire des visites, des suivis de chantier, de travailler avec des personnes soit qui côtoient au quotidien, soit qui comprennent vraiment leurs enjeux et ceux du territoire.
Bruno, pareil pour vous.
Alors nous, on souhaiterait pouvoir parler comme ça, mais malheureusement, on est considéré comme acheteur public. Donc on est obligé de respecter le code de la commande publique qui nous impose justement de ne pas tomber dans le localisme, même si dans la pratique, on essaye toujours d'avoir quand même des entreprises, d'essayer de faire répondre à nos appels d'offres publics des entreprises qu'on juge sérieuses et qu'on estime être sur le territoire, ne serait-ce que pour des raisons d'impact carbone sur l'activité, parce qu'effectivement une entreprise qui va venir de Marseille pour travailler dans le Divois, ça nous paraît complètement incohérent, de Marseille ou de Paris ou d'ailleurs. Et c'est vrai que si une entreprise locale arrive à se placer, nous, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir travailler avec des acteurs locaux, parce qu'on sait qu'on aura une meilleure réactivité, on aura des prix qui seront un peu meilleurs, on aura une livraison de chantier qui sera bien plus efficiente qu'avec des entreprises qui sont situées à plus de 100 km, c'est sûr.
Et donc, j'imagine qu'il y aurait peut-être quelques réflexions sur ce type de constitution et de traitement par les services administratifs.
Par rapport à la...
Ces exigences de cahier, d'appel à candidature.
Effectivement, alors nous, sur les appels à candidature, sur des petits projets comme ça, on sait très bien que les grosses entreprises ne vont pas se déplacer. Donc effectivement, nous, on a un vrai travail en général quand on fait un appel d'offres dans des secteurs un petit peu moins tendu, on va dire, en termes d'entreprise de travaux, ben on essaye de prendre les informations auprès des différents partenaires, donc auprès de la mairie, auprès de la communauté de communes, auprès de village vivant aussi, enfin des acteurs qui font travailler des entreprises, justement, de recenser une liste d'entreprises sérieuses. Et puis, effectivement, à ce moment-là, on les invite vraiment à répondre à nos dossiers, à les étudier avec soin. On organise aussi une visite sur site pendant la consultation pour que les gens puissent vraiment voir le bâti et pas répondre n'importe quoi. Voilà, je dirais qu'on peut, on essaye de faire au mieux, mais on ne peut pas faire plus, malheureusement.
Je me tourne vers Joël. Joël, cette structure, ce local, va permettre donc à quelques associations ou activités de se faire ou de se faire connaître également.
Alors, ça va nous permettre, oui, de développer à la corderie nos propres propositions. Et ça va nous permettre aussi, on a déjà pas mal de partenariats avec d'autres associations. Et en ce moment, on a la recherche d'un partage de locaux, puisque donc on n'a pas forcément l'usage de toute la totalité de la surface. Donc on a la recherche d'une association pour partager un bureau dans ce local.
Il y a cette possibilité donc de proposition de service par vous avec la corderie. Ce type de service regroupe toutes les préoccupations du quotidien.
Oui, je pense qu'on a un panel vraiment très très large, hein, de services, puisque ça va vraiment des choses complètement basiques, hein, ne serait-ce que quelqu'un qui a une voiture et qui peut proposer à des gens qui n'ont pas de voiture de faire des déplacements, ou des ateliers cuisine, des ateliers couture, enfin. Et il y a aussi beaucoup de propositions collectives qui sont, je dirais, peut-être plus ludiques ou plus joyeuses. Il peut y avoir des propositions, donc je parlais d'ateliers d'écriture, de découverte de chants. Enfin, il y a vraiment une liste qui est très très large de propositions. La base étant toujours une heure égale une heure, quel que soit l'échange. Mmh.
Que ce soit Village Vivant et Solia, vous répondrez chacun l'un après l'autre. Quelle a été pour vous cette motivation à monter une structure telle que Village Vivant? Est-ce que c'était dans un souci de combler des lacunes sur une activité, celle de la reprise économique d'un centre-ville, par exemple?
De notre côté, la motivation, c'était de faire quelque chose de ces biens vacants ou de ces biens qui se dégradaient, qui n'étaient pas remis dans l'utilité sociale, l'utilité du territoire et celle prioritairement des habitants. Et par ce biais-là, mettre en lien, en fait, faire le lien entre ces bâtiments vacants à rénover et ces projets sociaux à but non lucratif qui emmènent avec eux une masse, une manne de personnes autour de leurs activités sociales. Pour nous, c'était vraiment une motivation très forte. Et on fait, grâce à l'acquisition aux acquisitions que l'on mène, le lien entre ces activités, leur développement et la possibilité de l'installation.
Et pour Bruno ?
Alors effectivement, nous, il y a un volet dont je n'avais pas forcément parlé au début, mais qui est l'accompagnement des collectivités dans leur projet de rénovation des centres urbains avec de l'accompagnement. Donc, c'est-à-dire qu'on a un pôle habitat qui s'occupe d'aider sur les opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Donc Solia, on a un volet de notre activité où on aide les collectivités à améliorer l'habitat par le biais d'opérations de programmation programmées d'amélioration de l'habitat. Et c'est vrai que nous, dès qu'on peut agir effectivement dans un ensemble plus vaste et accompagner la collectivité dans son schéma dans son plan logement et habitat, et bien effectivement on y va sans hésiter. Et puis après, de par notre objet social qui est le logement social et l'accompagnement des publics fragiles, quand on arrive à faire coïncider tout ça, ben on est les plus heureux du monde.
Anne-Sophie ?
Et du côté de Village Vivant, auprès des collectivités, on fait quelque chose d'assez innovant depuis début 2022, c'est aussi d'acquérir des locaux vides lorsque le besoin émane de la collectivité et qu'une collectivité nous dit ce local, il a un emplacement stratégique, en fait, il faut qu'il s'y passe quelque chose, ça va réenclencher une boucle vertueuse de développement économique et de création d'activités. Et là, Village Vivant peut intervenir sur le local, ne sachant pas à ce moment-là quel va être le futur usage, quelle va être la structure qui va être réinstallée. Mais dans ces cas-là, on lance un appel à projet en partenariat avec les collectivités pour trouver le bon locataire.
Je reviens aussi par rapport aux partenaires, les partenaires, que ce soit financiers, publics ou fondations, ou les partenaires de métier. Vous avez quand même une certaine liberté d'action dans vos démarches.
Tout à fait. On a de la chance d'avoir des partenaires qui aussi ont été embarqués dès le début, qui ont vu que sur les 5 premières années, on avait mené des démarches de recherche et développement innovante, avec une manière de faire qui est très contrainte, comme Bruno aussi le rappelle sur le métier de l'habitat social, et des partenaires du coup qui ont accepté des conditions plus facilitante, plus solidaire, notamment sur les taux d'intérêt de leurs investissements. Je pense à des acteurs institutionnels avec lesquels on a négocié des taux très bas et une prise de risque forte de leur part pour les embarquer dans cette aventure sur les territoires ruraux.
Là, dans le contexte actuel où l'inflation va en galopant, est-ce que vous avez déjà une réflexion sur ce problème, sur votre démarche, sur votre activité ?
C'est vrai que nous, on a des cahiers des charges sur les prestations de travaux dans nos logements. Et effectivement, l'augmentation du coût des matériaux, nous a pose de réfléchir différemment sur nos modes de production d'énergie et puis également sur le type de matériaux qu'on peut mettre en œuvre. Et il va y avoir une vraie révolution, j'ai envie de dire, des pratiques à ce sujet-là, avec peut-être des méthodes de préfabrication sur certaines prestations, on va dire, qu'on n'avait pas avant et qui nous permettraient de diminuer un petit peu les coûts et puis réfléchir aussi différemment à comment aborder les chantiers. Effectivement, peut-être aussi pour répondre à ces coûts-là, les filières vont peut-être se structurer un peu différemment et les entreprises peuvent se regrouper, on va dire, pour former des modes d'action un peu plus efficaces, un peu plus rapides, toujours dans le but de diminuer les coûts.
Joël, pareil, le succès de la corderie, c'est aussi le contexte économique qui est de plus en plus difficile. Est-ce que c'est aussi un moyen justement de pallier à ce coût de la vie et de traiter par le biais de la solidarité en quelque sorte ?
Je pense que c'est vraiment le cœur de notre proposition. De dire que ce qui est important, c'est de créer du lien et que plus les temps sont difficiles, économiquement ou politiquement, plus c'est important d'avoir des liens. Et en plus, le fait que tous nos services s'échangent sans un seul euro, ça permet vraiment de lutter contre les précarités. Je repense à ce qui s'est passé dans certains pays comme en Argentine ou en Grèce, où l'économie, à un moment donné, s'est quasiment effondrée. Et la société civile a tenu grâce à ce genre d'échange. Et je pense que même nos politiques ont conscience que c'est bien d'avoir un plan B. Et donc on est vraiment soutenu en ce moment. On est reconnu espace de vie sociale par la CAF. Tout ça, c'est une reconnaissance qui pour nous est importante. Et je voudrais aussi dire que par rapport à cette opération de changement de local, on est trois structures complètement différentes. La Corderie, Village Vivant et Solia. Et néanmoins, il y a une espèce de convergence naturelle qui s'est créée parce que je pense qu'on est tous des acteurs de l'économie solidaire et sociale. Voilà, et les mots sont importants, solidaire et social.
Oui.
Alors, je suis d'accord avec ces propos qui résonnent très juste dans le contexte actuel.
Village Vivant, est-ce que vous avez créé par vous-même cette action que vous proposez ou alors est-ce qu'il y a, il y avait des antécédents dans d'autres pays par exemple ?
Il y a des antécédents juste à côté de chez nous. à l'époque dans le même bâtiment que nous, qui sont ceux de Terre de Liens, qui a défriché cette idée du foncier solidaire, alors sur les terres agricoles, remises au service de l'agriculture biologique et de paysans qui souhaitaient se réinstaller. Et ça, ça a été très fort pour nous dans notre structuration. On s'est aussi beaucoup appuyé sur Habitat et Humanisme, sur la dimension logement également, sur des banques solidaires telles que la NEF, sur des structures qui permettent le microcrédit, telles que l'ADI. Et toutes ces inspirations sont venues ponctuer notre chemin pour que nous puissions créer notre propre voie.
Idem pour Bruno.
Effectivement, alors Solia, c'est l'héritage d'une vieille association qui était le Centre d'aide au logement de la Drôme, donc qui porte bien son nom finalement, d'aide au logement. Et c'est vrai que Solia continue sa défense pour un logement plus abordable, de meilleure qualité, avec des charges de plus en plus maîtrisées. Et c'est vrai que on cherche nous à être partenaire de toutes ces nouvelles associations qui sont créées, qui relèvent du domaine de l'économie et solidaire, telles que Village Vivant. On travaille aussi avec Terre de Liens. On a dans notre conseil d'administration Habitat et Humanisme. Voilà, donc on se reconnaît et on porte aussi les valeurs de toutes ces associations-là, bien entendu.
Et je prolonge un peu par une question. Est-ce que vous êtes vous-même devenu décan d'école ?
Tout à fait. L'idée des foncières territoriales ou micro-foncières ou foncières spécialisées dans certains domaines sont en train d'éclore. Je pense autour de Lyon, dans l'agglomération lyonnaise, dans la Loire et la Haute-Loire, à plusieurs foncières qui se créent notamment autour des questions d'habitat partagé, de maisons, de colocation entre seniors. Et on est beaucoup sollicité par leur volonté de s'appuyer sur nous et de s'inspirer. Pour ça, on a monté, notamment pour ça en tout cas, on propose aujourd'hui des modules de formation qui nous permettent d'accueillir un public large et de se former aux bases du modèle économique immobilier.
Effectivement, pour notre part, je dirais qu'on est, alors, on est précurseur, non, il y a d'autres Solia en France qui, eux, par contre, sont précurseurs, donc c'est vrai qu'on est une fédération. Et effectivement, dans tout ce qui est domaine de l'habitat inclusif, ou l'innovation, on va dire, sur des formes d'habitat un petit peu différentes, non classiques. Solia, on est effectivement les premiers à porter ces projets innovants qui, en général, nous sont amenés par d'autres associations qui font émerger certains besoins qui ne sont pas couverts par les structures classiques et qui effectivement, sont hyper intéressants et adaptés aux besoins. Et Solia, on est le partenaire de ces associations qui ont besoin d'intégrer leurs projets dans un ensemble immobilier. Et effectivement, on a à cœur de les suivre et de faire des montages innovants et de les porter auprès des collectivités, de faire même remonter au niveau de l'État des formules de logement adaptés ou inclusifs, peu importe le nom qu'on y met, mais des formules un petit peu différentes qui répondent vraiment à des besoins identifiés.
L'émission se termine. On peut indiquer aux auditeurs simplement les moyens de s'informer sur vos activités, la Corderie et Village Vivant et Solia. Je suppose qu'en tapant les mots noms sur un moteur de recherche, on trouve assez facilement les sites. Hein.
Oui, tout à fait. La Corderie du Pays d'Ivoire, vous trouverez tous les renseignements. Et puis passez maintenant à notre nouveau local, donc rue Camille Buffardel, vous serez bienvenue.
Village Vivant, notre site internet, les réseaux sociaux tels que Facebook et LinkedIn. Et puis, bien sûr, la Corderie qui est aussi un lieu relais, un lieu vitrine dans laquelle plein d'infos sur Village Vivant pourront être apportées.
Alors pour Solia, on est situé au 44 rue Faventine à Valence. Donc effectivement, on dispose aussi d'un espace information logement qui est une belle plateforme d'étudiage pour ceux qui souhaitent avoir des informations. Voilà.
Eh bien, je vous remercie tous trois, Anne-Sophie Dodon, Joël Peter et Bruno Locatelli, de nous avoir donné un peu de temps sur RDIWA pour nous parler donc de Village Vivant et de cette acquisition pour la corderie de l'ancienne pharmacie. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Merci.
Merci. Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Stabilize the unit out of Thunderbird 2.
It's true, they beat it right to the middle.